Europe 1.
Europe 1, 10h-11h.
Médiapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, bonjour Catherine.
Bonjour Olivier, bonjour François Durpère, bienvenue.
Bonjour, merci de votre accueil.
Et bonjour à celles et ceux qui nous écoutent.
Et à Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, basé à New York, donc vu le décalage horaire. Vous êtes en ligne, Xavier ? Vous êtes réveillé ?
Oui, je suis là. Je suis réveillé, je suis debout.
Bonjour.
Il est quelle heure à New York ?
Bonjour. Il est 5h du matin.
Yes, thank you very much. François Durpère, historien spécialiste des États-Unis, professeur à l'université de Cergy-Pontoise et auteur d'un livre paru il y a quelques semaines.
Oui, quelques jours même.
Quelques jours. Les États-Unis pour les nuls.
Exactement, c'est une réédition.
Une nouvelle édition, pas une réédition. Ouais. C'est quand on retire tel quel. Vous, c'est mieux, c'est mis à jour.
Mais vous avez raison de préciser qu'on a passé des mois à faire une nouvelle édition et pas rééditer.
Et voilà, et bien sûr. Donc, tout ça veut dire que nous allons évidemment consacrer l'essentiel de cette émission aux États-Unis. Mais pour commencer, vu la gravité de la situation en France, le nouvel attentat perpétré à Nice, le retour de l'inquiétude, pour ne pas dire plus, sur ces attentats de plus en plus imprévisibles, de plus en plus dénués de sens, de plus en plus violents, de plus en plus pouvant atteindre tout le monde n'importe où, n'importe quand. On va quand même y passer un début d'émission, y compris d'ailleurs sur l'étrange regard, le regard très critique d'une partie de l'essentiel des médias américains, en tout cas de ceux qui s'y intéressent, sur la France et le rapport de la France à la question de la laïcité. Pour commencer donc, Canteloup, Nicolas, mercredi sur Europe 1. Non, pas de compte. Ah oui, alors voilà, c'est ça. Vous voyez, moi-même, on dirait que je suis en décalage horaire, et pourtant, ce n'est pas le cas, puisque je suis en studio à Europe 1. Et là, ce n'est pas aux États-Unis. L'autre grande nouvelle de la semaine, c'est le reconfinement. De toute façon, moi, je trouve tous ces mots plus déplorables les uns que les autres, parce que je pense qu'on n'a jamais été déconfinés, qu'on n'aurait jamais dû parler de déconfinement. Comme ça, les gens n'auraient pas cru que c'était à tort, que c'était fini. Disons le durcissement du confinement. Canteloup, donc, sur Macron et le confinement.
Nous sommes avec le président de la République. Bonjour à vous.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Alors, vous avez à nouveau de mauvaises nouvelles à annoncer. Hein. Ben, nous, on est un petit peu perdus. Comment vous voyez l'avenir, vous ? Dites-nous.
Écoutez, cher Julie Leclerc, je n'ai plus qu'une seule certitude. Quelle que soit la décision que je prendrai, les Français vont gueuler. Voilà. Je ferme tout, je suis un dictateur qui prive de liberté. Je laisse ouvert, je suis un libéral qui pense qu'à l'économie et au pognon. Non, mais... Quel que soit le scénario, je paume. À tous les coups, je perds.
Ah oui, c'est pas faux. Bon, écoutez, on parle beaucoup de ces tests rapides, hein, bientôt disponibles en pharmacie. Mais ces tests ne seraient pas fiables. Allez, ça fait peur aux Français.
Ils seraient pas fiables et ça fait peur aux Français. Ouais. Bon, écoutez, les Français, vous avez des tests pas fiables. Moi, j'ai des ministres pas fiables. J'ai Bachelot, j'ai Castex. Mais oui, mais vous croyez qu'ils sont fiables ? Non. Bon, ben voilà, on fait avec. Voilà, c'est la guerre. Que voulez-vous ?
Alors, on a beaucoup entendu que ces mesures allaient servir à sauver Noël, mais est-ce qu'on va vraiment sauver Noël ?
Oui, d'ailleurs, à ce sujet, sur le fait de sauver Noël, pardon, je tiens d'ailleurs à m'excuser par avance auprès de Erdogan, du président Erdogan. Oui. Il est possible que nous fêtions cette fête chrétienne de Noël. Je sais. Non, j'anticipe parce que je sais qu'il est un peu soupelé. Je sais qu'il va le prendre comme une offense faite au monde musulman. Donc, je m'en excuse auprès de lui par avance. Et pour le 24 décembre, il est possible, je sais pas sûr, mais il est possible qu'on boycotte les kebabs parce que nous sommes plus d'indomarons que kebabs. Navré, hein, cher Erdo.
Plus d'aide au marron que kebab. Donc c'était aussi un peu sur la question musulmane, le Canteloup. Mais parlons d'abord du reconfinement, du nouveau confinement, de la nouvelle forme prise par le confinement. Par définition, très rares sont les gens qui sont contents et très nombreux sont ceux qui critiquent. D'abord parce que c'est un trait du caractère français, aurait dit le général de Gaulle. Et ensuite parce que les points de vue sont rarement ceux de l'ensemble du problème, de l'ensemble de la population. Et donc, si je résume, je pense que le monde médical, fondamentalement, trouve que le confinement n'est pas assez dur. Le monde économique, fondamentalement, on trouve que le confinement est trop dur. Et compte tenu de ces doubles critiques, finalement, ce qui est étonnant, c'est la relative acceptation, au moins en termes d'opinion, des Français, puisque selon les enquêtes, entre 2/3 et 3/4 d'entre eux approuvent les mesures prises. Alors Catherine Ney, vous êtes économiste ou vous êtes médecin ? Non, vous êtes éditorialiste politique.
Bien... Il y a la peur, parce que cette deuxième vague que le Conseil scientifique annonçait en juillet, et même dès le mois de septembre, disait attention, il va falloir... Bon, on n'y croyait pas, on n'y croyait pas. Mais maintenant, on y croit parce qu'on a autour de soi, on connaît des tas de gens qui sont atteints aujourd'hui de la maladie. Donc ça change. Donc à la fois, on n'est pas content de se confiner, mais on a peur. Donc les gens aussi, il y a la peur qui fait que... Et ils vont s'enfermer chez eux, tout en râlant. Mais ce qui est dur, moi, je pense à tous ces commerçants qui ont préparé Noël, plus de 200 000, et qui vont peut-être y laisser leur peau pour définitivement. Parce que après le premier confinement, vous savez, où tout était fermé, vraiment tout était fermé, eh bien, après, quand ça a réouvert, on s'est aperçu que la moitié des rues, les commerces ne réouvraient pas. Donc Paris peut devenir un grand vide commercial, autant qu'une ville moyenne de France où le centre commercial a disparu. Alors c'est ça qui fait peur. Voilà. Donc on est contre le confinement à cause de ça, parce qu'on va laisser mourir des gens.
C'est très différent d'ailleurs aux États-Unis.
Il y a deux éléments très différents. Le premier élément, c'est la conjoncture, c'est une élection. Donc ça veut dire que la Covid, c'est l'année électorale américaine. Donc ça veut dire qu'on a un grand débat démocratique. Et ce grand débat démocratique, c'est les confineurs contre ceux qui disent « Moi, je suis Donald Trump, je me charge de la première économie du monde et je ne peux pas la fermer. » Donc, c'est quand même... C'est sur la place publique, c'est dans les débats. Vous avez vu ce plexiglas entre les deux candidats. Ouais. C'était très, très symbolique et important.
Mais si vous permettez, François, juste sur le point que vous évoquez là, François Durpaire, on voit l'immensité de la différence. En France, nous discutons et même mission a été donnée à l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, d'essayer de trouver un consensus pour savoir si on va reporter ou pas des élections régionales et départementales. Aux États-Unis d'Amérique, en pleine crise, et avec beaucoup, beaucoup plus de contamination et de morts que chez nous, la question n'a pas été posée.
Olivier, j'ai cherché à savoir si quelqu'un avait posé la question aux États-Unis. Je n'ai trouvé aucun article de presse, et j'ai posé la question à mes amis américains. C'est inenvisageable. On peut tout confiner, mais tout, les écoles, on peut tout confiner. On peut confiner Disney, le parc d'attractions. On peut confiner des églises. On dit souvent, oh là là, les Américains, ils tiennent à leur religion. On peut confiner des stades de foot. En revanche, la démocratie américaine continue à fonctionner. Et deuxième élément très particulier, c'est évidemment la fédéralisation qui fait que ça se décide, non pas état par état, mais comté par comté. Vous pouvez trouver un comté confiné, un comté où vous avez un état, une fermeture, un couvre-feu,
et
bien un comté ouvert.
Xavier Yvon, à propos, vous êtes confiné un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout ?
On est un peu comme ce que vous avez dit au début de l'émission, c'est qu'on n'a jamais été vraiment très déconfiné à New York. Vous savez que New York a été extrêmement durement touché, c'était l'épicentre de la pandémie au printemps. Et donc les New Yorkais sont traumatisés, échaudés, et on sort très progressivement de ce qui était un confinement à New York, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'interdiction de sortie, mais nous, on a mis des masques très tôt, tout de suite dans la rue. Les New Yorkais sont quand même assez disciplinés. Et donc là, par exemple, mes enfants retournent à l'école depuis à peine un mois, et encore, ils n'y vont que la moitié de la semaine, avec un masque en permanence. Les restaurants n'ont ouvert à l'intérieur.
Ils ont quel âge, vos enfants ?
6 et 10 ans.
Ah oui,
le masque est obligatoire à l'école à partir de 4 ans. De ce qu'on appelle le pre-K ici. Donc à partir de 4 ans, les gamins mettent des masques toute la journée à l'école.
Très intéressant.
Et les restaurants.
Hein, on voit que les règles.
Les restaurants ont rouvert à l'intérieur à 25% de capacité qu'il y a quelques semaines.
Donc il y a une partie des règles qui sont plus dures, d'autres pas. Et en plus, ça dépend de partout aux États-Unis. Absolument passionnant de regarder, de comparer avec ce qui se passe ailleurs. On va aussi regarder, on va regarder le regard, si j'ose dire, des Américains sur notre. Défense des caricatures et notre réaction après les attentats, juste après une première brève pause.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Vous savez que Alice Baudry, directrice de la communication de l'Institut Montaigne, surveille pour nous les médias internationaux. Et là, elle a regardé les plus grands journaux et le principal journal intellectuel, si j'ose dire, de l'intelligentsia américaine, qui est le New York Times. La réaction du New York Times aux réactions françaises et particulièrement présidentielles après l'égorgement du professeur Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Et elle nous dit « L'assassinat de Samuel Paty a fait l'objet de traitements médiatiques dans le monde entier. C'est le New York Times qui en a fait une couverture et une analyse les plus importantes avec rien que cette semaine trois articles dédiés au sujet d'intégration d'islam et de séparatisme en France. Hors de France, notre modèle d'intégration choque. Pour le New York Times, c'était l'occasion, pensait-il, de faire de la pédagogie. La décapitation de l'enseignant français, c'est la preuve de l'échec de notre modèle, écrit le New York Times. C'est bien en France, alors là le Times se trompe un peu parce qu'il exagère sur les faits, c'est bien en France qu'Abdullah Anzorov avait grandi depuis tout petit, non en vérité c'était seulement ces dernières années, et il était le produit même de nos écoles publiques. Pourtant, il a rejeté ses principes dans un crime horrible qui a choqué et enragé le pays en clé. C'est ce que rappelle l'article intitulé « Un professeur, son assassin et l'échec du modèle d'intégration français ». Cet article dit que ce n'est pas le dernier produit des écoles publiques françaises à se retourner contre nos idéaux, et là il n'a pas tort. Les frères Kouachi étaient eux aussi des produits de l'école française. Conclusion, la posture française pose problème et inculquer les idéaux de la nation peut s'avérer dangereux. Je cite le New York Times. Dans un autre article, le New York Times analyse la défense catégorique d'Emmanuel Macron par Emmanuel Macron des caricatures une semaine après l'attentat, ce qui a conduit à des protestations à l'étranger. Plusieurs pays musulmans, dont le Koweït et le Qatar, ont commencé à boycotter les produits français en signe de protestation. Et dans un troisième article, cette fois sur la place des musulmans en France, après le discours de Macron au Mureau sur les séparatistes, et dans la foulée de l'attaque de jeudi à Nice, le New York Times met en perspective des témoignages de plusieurs musulmans qui vivent dans notre pays et conclut par dire que la politique d'intégration de la France, qu'il appelle d'assimilation, tend à nier les différences et pourrait être très ambigu pour le musulman modéré dans le contexte actuel. Il conclut que le concept français de laïcité n'est décidément pas évident à expliquer. Je signale que le Washington Post a fait aussi un article exactement dans le même sens. Alors, ce ne sont pas des journaux francophobes. Ce sont des journaux, en général, plutôt francophiles. Là, on voit qu'il y a un abîme entre la perception de la sécularisation, de la relation qu'il faut avoir avec une population de telle ou telle religion, et puis soyons clairs, musulmane, en France par rapport aux États-Unis. Xavier Durper.
François.
François Durper.
Ça met en cause deux choses. La première, c'est le modèle d'intégration. La première chose, c'est parce que les Américains se disent pourquoi il y a encore des attentats en France, alors que les autres pays occidentaux, il faut bien le dire, la question des attentats ne se pose plus aux États-Unis. Ils se disent pourquoi en France ? Première chose, la question de l'intégration. Aux États-Unis, vous vous intégrez selon un modèle très très simple. Il y a l'ethnic pride et le national pride. C'est-à-dire que vous apprenez à l'école le Pledge of Allegiance, vous apprenez l'hymne, vous apprenez à respecter le drapeau. L'allégeance au drapeau. Vous êtes américain, mais vous êtes aussi musulmans, afro, etc. C'est-à-dire l'ethnic pride. Ça ne pose pas de problème. Vous avez la double allégeance.
Pride, c'est la fierté.
La fierté.
Fierté ethnique,
de ses origines,
nationale.
Fierté de ses origines, fierté de sa religion, fierté de ce que vous voulez, mais aussi être pleinement américain. Première chose. Deuxième chose, la question de la laïcité. Alors, les Français comprennent mal la laïcité à l'américaine. Parce qu'il y a un folklore, évidemment, anti-laïque. On jure sur la Bible, In God We Trust, nous avons confiance en Dieu sur
le
billet.
Le mot n'existe pas d'ailleurs, hein, en anglais. Exactement. On est d'accord.
Mais il existe peut-être pas, mais il a été inventé par les Américains 114 ans avant les Français, par le premier amendement à la Constitution américaine. Le Congrès ne fera aucune loi qui établisse une religion et il permettra... En revanche, qu'on respecte toutes les religions.
Je m'arrête une seconde là-dessus, parce que c'est quand même très très étonnant que ce mot laïcité existe dans certains pays dans le monde, mais très peu de pays. Et c'est quand même un exemple assez rare d'un mot, presque la majorité des pays ont importé la chose, mais n'ont pas voulu importer le mot. C'est quand même
mais là,
étonnant.
C'est plutôt l'inverse.
C'est hommage
là.
À Alain Rey, au passage, qui nous a quittés et qui aurait eu beaucoup de choses intelligentes à dire là-dessus.
Là, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'ils n'ont pas importé, les Américains.
Non, ils ont anticipé.
Au cœur de leur révolution, ils ont fait ce que les révolutionnaires français n'ont pas réussi à faire. Ouais. C'est que les révolutionnaires français ont mis 114 ans avant de l'inscrire dans la Constitution. Alors que les révolutionnaires américains ont réussi ce premier amendement de 1791, qui prévoit deux choses. Un, le non-établissement, c'est quoi ? C'est comme la France. Mais c'est plutôt les Français qui sont comme les Américains. The Wall, le mur.
de séparation entre l'Église et l'État. Mais il y a aussi la clause de libre exercice. Il ne faut pas oublier que les Américains sont des anciens persécutés religieux, donc qui permettent dans leur constitution de respecter toutes les croyances. Et c'est pour ça que ça les choque.
Mais comment ça, c'est pour ça, nous aussi on respecte toutes les croyances. Attendez, j'y comprends rien,
Vous m'expliquez que les Américains...
Vous
n'avez pas le droit.
Vous aurez le droit dans deux minutes.
J'attends pour expliquer.
Ah bah oui, parce que comment on nous explique qu'ils l'ont inventé mais qu'ils comprennent rien quand on le fait, nous. Durper va nous éclairer dans deux minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et François Durper, historien spécialiste des États-Unis, auteur d'une nouvelle édition de l'ouvrage « Les États-Unis pour les nuls ». Le nul, c'est moi. Je ne comprends pas. Et vous allez m'expliquer, François Durper, deux choses qui sont probablement la même d'ailleurs. Pourquoi ceux qui ont inventé la séparation de l'Église et de l'État ne comprennent rien à la laïcité française? Et deuxièmement, pourquoi un pays dans lequel on peut manifester avec des croix gammées et crier « Heil Hitler » parce que la liberté d'expression l'emporte sur tout, en revanche, on ne publie pas les caricatures de Mahomet. Expliquez au nul que je suis.
Première chose, effectivement, vous avez un pays où on comprend quand même le mur de séparation entre l'Église et l'État, puisque c'est Jefferson, dès l'origine des États-Unis, qui dit qu'il faut qu'il y ait un mur entre l'Église et l'État. Et c'est pour ça que dans les écoles américaines, pas de crèche. Et quand les parents disent il faut pas apprendre, etc., machin, on leur dit non, mur de séparation. Donc ça existe. Il y a une laïcité à la française aux États-Unis, qui est plus dure que la France.
Oui.
Est-ce que vous connaissez un dollar de vos impôts américains qui va dans des églises confessionnel, comme c'est le cas en France, parce que nous, on n'est pas laïcs au portefeuille. Eux, ils sont laïcs au portefeuille. C'est important. Deuxième chose, ils ont quelque chose qui contrebalance et qui va répondre à votre question. Ils ont le fait qu'il y a la clause de libre exercice, c'est-à-dire le respect de chaque religion, de croire et de ne pas croire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Français, ils ont dû déraciner une église catholique qui dominait depuis 2000 ans. Alors que les Américains sont des anciens persécutés religieux qui arrivent en se disant, il y a ce mur de séparation, mais il faut protéger la liberté de croire. Et de
ça,
ne pas
c'est
croire,
intéressant.
Mais la liberté
on a absolument le droit de publier les caricatures, mais on ne le fait pas.
Voilà. Exactement, on a le droit. Vous pouvez publier. Mais on se dit, il y a des musulmans américains.
Ça va les blesser.
Et si ça les choque, et puis il y a aussi le fait que si ça choque, on ne va pas être, nous, journalistes, se mettre à la place des gens pour savoir ce qui va choquer ou ce qui ne va pas choquer notre public.
Xavier Yvon, vous avez lu, j'imagine, vous êtes à New York en plus. Oui. Le New York Times, ça vous a surpris ces articles quand même assez véhéments contre la France ?
Mais pas du tout en fait, parce que quand vous habitez aux États-Unis, que vous lisez la presse américaine régulièrement, on voit le fossé immense qui sépare les Américains et les Français sur cette question-là. D'ailleurs, votre réaction avant la publicité était symptomatique d'incompréhension, parce que vous savez, l'histoire de la laïcité à la française pour les Américains, c'est un objet de sidération permanent. Dès qu'il y a une histoire de voile, il y a des articles dans la presse américaine, ils n'en reviennent pas à chaque fois qu'on interdise aux gens de porter le voile. Ici, les femmes portent le voile, on montre sa religion, on est libre de la montrer. Il y a on est en radio, il y a une très bonne reporter de la radio publique nationale américaine qui suit la campagne aujourd'hui, qui est une femme voilée. Ça pose de problème à personne. Et pour les Américains, la laïcité française, c'est comme pour nous les armes. On ne se comprend pas. C'est exotique. On ne comprend pas comment ça marche de l'autre côté de l'Atlantique. Et je pense que ce n'est pas fini.
Alors, moi, je vais continuer à faire le nul, parfois en forçant le trait, et à essayer de me faire expliquer des choses qui, pour nous, ne sont pas évidentes. Alors, maintenant, j'en arrive à Trump. Trump, il a quand même violé toutes les règles, toutes les barrières. Il s'est mis, par exemple, à insulter son adversaire, à insulter en campagne et en débat son adversaire, à le traiter d'idiot. C'est une chose inimaginable chez nous, ça. Écoutez, d'ailleurs, écoutez-le, Trump. Vous avez employé le mot intelligent. Vous avez été plus mauvais dans votre promotion. N'utilisez plus jamais ce mot. Parce qu'il n'y a rien d'intelligent chez vous. Non, là, il passe sur le... Voilà, il passe sur la Russie. Jetez Joe l'endormi. C'est un vote pour la plus grande hausse des taxes dans l'histoire de ce pays. J'ai jamais vu ça. Un mec fait campagne sur le fait qu'il va augmenter les impôts. Et si je perds la face, si je perds, je vous adresserai plus jamais la parole. Vous me verrez plus. Non mais c'est totalement dingue, quoi. Déjà, même là, je m'arrête la première et la dernière. Traiter son, N'utilisez pas le mot intelligent parce que vous n'êtes tout sauf intelligent, d'une part. Et d'autre part, à quelques jours de l'élection, évoquer le fait qu'on risque de la perdre et dire, si je la perds, peut-être que je m'en irai, peut-être que je quitterai le pays. Mais c'est comment est-ce qu'il garde sa base électorale ? Xavier Yvon, je vais vous faire répondre en premier, si vous voulez bien. Comment est-ce que... Oui. On viendra tout à l'heure au fait qu'il va gagner ou perdre. Et moi, je précise tout de suite, je l'ai dit 10 fois sur cette antenne, que la dernière fois, je pensais qu'il gagnerait. Et là, je pense qu'il va perdre. J'en suis même convaincu. Mais on verra ça mardi, dans les jours qui suivent. Mais en tout cas, même s'il perd, il ne perd pas sa base électorale, disons, de 40%, quoi qu'il arrive. Comment c'est possible que des incongruités à ce point lourdes ne le gênent en rien auprès de sa base ?
Parce qu'en fait, il a passé son temps à justement conserver sa base, à la flatter, à la contenter, à lui parler. Il n'a jamais été le président de tous les Américains. Il a été président seulement des Américains qui l'ont élu. Et alors, nous, on décortique chaque petite phrase, chaque meeting, chaque insulte, etc. Mais quand vous prenez aux États-Unis, la plupart des Américains, notamment dans les zones rurales, ils ne sont pas branchés en permanence sur la télévision. Puis si c'est la télévision, c'est Fox News, donc qui ne va pas à ce point-là insister sur les insultes du président américain. Et au final, pour eux, c'est du bruit de fond. Ils disent oui, ah bah bien sûr, il devrait un petit peu moins tweeter, il devrait de temps en temps un peu fermer sa grande bouche, mais il est comme ça, il parle comme nous, et surtout, il fait des choses pour nous. Alors, il fait des choses pour eux, il le dit beaucoup, il dit je suis avec vous, je suis avec le peuple, je suis avec les petits artisans, les small business owners, les patrons de PME. Et c'est vrai qu'il a rempli certaines de ses promesses de campagne, notamment toutes celles de se retirer des grands accords internationaux. Et donc, il a passé tout son mandat à flatter, contenter sa base. Et d'ailleurs, il a fait, vous parlez de choses inimaginables, il a fait une chose inimaginable il y a quelques semaines. En parlant du coronavirus, il a séparé en deux les États-Unis. Il a dit, ah, si on prend les chiffres des États républicains qui sont avec moi, qui m'aiment, les États rouges, on est OK, n'importe quel pays du monde prendrait nos chiffres. Mais si on rajoute les chiffres des États démocrates, là, c'est catastrophique. Oui. Ce n'était pas vrai à cette époque, c'est encore moins vrai maintenant. Mais vous vous rendez compte qu'un président des États-Unis qui sépare en deux son pays pour dire la partie qui m'aime, on est meilleur, c'est quand même très, très, très incongru.
Un président qui sépare son pays en deux. On va y revenir dans 2 minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Avec Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis et de New York, et François Durper, historien qui republie une nouvelle édition des États-Unis pour les nuls. J'avais dit que je voulais creuser cette question du président qui sépare le pays en deux, mais Catherine Ney, avant, a une autre question à poser, priorité
oui,
à Madame Ney, bien sûr.
Ce que je trouve extraordinaire, c'est que cet homme, vous voyez, qui a eu le Covid, et alors il y a eu 229 000 morts aux États-Unis, mais ça devrait le pénaliser. Or, le fait qu'il ait été malade et qu'il soit encore plus en meilleure santé, il a l'air d'être absolument insubmersible. Alors, est-ce que ça frappe ses électeurs ? Alors, parce qu'on dit que ce n'est pas une mauviette, quoi.
Oui, c'est quelque chose... On ne peut pas retirer ça à Donald Trump. C'est une école d'énergie. C'est une école d'énergie. Et il a ce discours-là pour ses électeurs... c'est qu'il y a un différentiel d'énergie avec mon adversaire. Et ça, on peut le voir surtout dans les débats. Bon, regardez, Joe Biden, on peut tout dire de Joe Biden, mais qu'il n'est pas au niveau d'énergie de Donald Trump. Après...
Mais moi, vous voyez, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire, je pense que c'est un handicap. Je n'ai pas d'accord. Je
comprends.
Catherine et vous, la thèse que vous mettez, attention.
Mais ça compte pour ses électeurs à lui.
On n'est pas sur une thèse.
Elle peut absolument être juste et je peux absolument avoir complètement tort. Mmh. Mais moi, je voudrais défendre le point de vue contraire. Oui. Que je ne parle pas juste de la base, mais je parle de l'élection qui va avoir lieu mardi. Pour une majorité d'Américains, Sleepy Joe, c'est mieux que Divided Donald.
Oui.
Ça suffit l'hystérisation de la politique. Ça suffit la division permanente du pays. Ça suffit d'insulter les gens tout le temps. Keep cool, boy. On a envie que ça se calme. Avec Biden, ça va se calmer. Et donc, on va taper Trump.
Non, mais vous allez pas... Enfin, je ne vais pas être du tout en désaccord. Je disais simplement que c'est une école d'énergie pour ses électeurs. Mais vous avez raison. Les Américains voulaient avec Obama quelqu'un qui les inspire, voulaient avec Trump quelqu'un qui renverse la table. Et là, ils ont sans doute besoin de calme et de stabilité en pleine pandémie. Vous avez raison. Ce que je disais simplement, c'est pourquoi peut-il encore avoir des chances ? Parce que quand on est en France et qu'on dit « Ah, Trump, il est fou, il est bête, c'est un mufle, etc. », on se dit pourquoi il peut encore avoir 45% des gens qui croient en lui ? Et il a des blocs. Il n'y a pas que des suprémacistes blancs qui votent Donald Trump. Il y a un... tous ceux qui en ont marre de la politique traditionnelle. Vous disiez, il insulte ses adversaires. Ben, y a des Américains qui disent, lui, ce mec, il est direct.
Oui,
il ne fait pas de langue
ça,
de bois.
Ça, je suis d'accord.
Voilà,
ça, je suis d'accord,
voilà.
Ça leur plaît.
Pas de, pas, anti-système, ça plaît.
C'est plus t'es grossier, oui, plus tu gueules contre les gens, mieux c'est.
Oui, anti-establishment, on peut dire populiste. Ça, c'est un. Et puis, il y a deux, les gens qui sont contents du bilan économique de Donald Trump et qui ne font pas confiance à Joe Biden, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Hein. Le programme de Joe Biden, il est très à gauche. Il a un discours de droite, mais un programme de gauche parce qu'il a fait la paix avec Sanders. Troisième chose, donc ça veut dire que ça fait deux groupes électoraux importants. Là. Mmh. Puis il y a tous les conservateurs. Les conservateurs qui disent super le bilan de Donald Trump.
Et donc, puis, là, non, je dois rajouter.
Attendez. Moi, je suis le responsable de l'heure.
Le chef,
excusez-moi.
Le chef.
Et en plus,
c'est
il y a
Donald Trump
à New York.
Il y a
François Durper qui est passionnant, mais qui parle lentement. Il y a Catherine qui râle parce que je ne lui donne pas la parole. Je ne m'en sors plus. S'il vous plaît.
Nos auditeurs jugeront.
Oui, mais les auditeurs sont toujours pour vous, chère Catherine. Il vous adore à juste titre. Il y a deux thèses. Il y a la thèse « It's the economic stupid ». Et comme il aurait réussi économiquement, il peut gagner. Et il y a la thèse « It's the virus stupid ». C'est le Covid. Et du coup, la Covid, comme vous voulez, peu importe, de toute façon. Et c'est à cause de ça qu'il va perdre. Xavier Yvon, je voudrais savoir quelle est celle de ces deux thèses qui vous semble prédominante. Et pour être sûr de me répondre franchement, je vous laisse 2 minutes.
Europe 1. Médiapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et à New York, Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1. En studio à Paris, François Durper, historien spécialiste des États-Unis qui vient de faire une nouvelle édition des États-Unis pour les nuls. Et Catherine Ney, éditorialiste politique. Alors, écoutez Joe Biden, Xavier Yvon. Écoutez juste Joe Biden 22 secondes. Et ensuite, dites-moi s'il a raison et du coup, s'il va gagner. 220 000 Américains sont morts. N'entendez rien d'autre que je dis ce soir que ceci. Quelqu'un qui est responsable pour avoir pris le contrôle, ne pas avoir dit je ne prends aucune responsabilité au début, quelqu'un qui est responsable d'autant de morts, ce not remain ne devrait pas pouvoir rester président des États-Unis d'Amérique. Xavier, Yvon, New York.
Est-ce que Donald Trump va rester président des États-Unis? Je ne sais pas vous répondre à cette question.
Mais en revanche, pourquoi vous avez eu 2 minutes 20 pour me répondre, pour réfléchir.
Parce que je ne vais pas m'avancer à faire des prédictions. Vous savez, dans mon bureau, là, affiché juste devant moi, il y a la une du New York Times du 9 novembre 2016 qui est intitulée « Trump triomphe », là où personne presque l'avait vu venir. Donc, je ne vais pas faire de prédiction. En revanche, je vais vous dire que oui, effectivement, le Covid-19, c'est le principal handicap de Donald Trump. C'est d'ailleurs pour ça que Joe Biden, qu'on vient d'entendre, n'arrête pas de parler de ça. C'est en fait la pandémie
de coronavirus. Donc, c'est pour ça qu'il sera battu.
C'est votre opinion.
Non, c'est mon analyse.
Alors, je pense que s'il est battu, ce sera à cause de ça. Parce que les démocrates ont bien compris que c'était l'illustration parfaite de l'incompétence de Donald Trump. Ils ont essayé l'impeachment, les affaires russes, les affaires ukrainiennes, c'est trop compliqué, ça n'a pas marché, ça n'a pas stick, ça n'a pas collé à l'opinion. Là, le Covid-19, c'est dans la vie de tous les Américains de tous les jours. Ils ont des malades, ils ont des morts, ils ont des commerces qui ferment, il y a une effondrement économique. Et vous avez les démocrates qui disent toute la journée, voilà ce que c'est d'élire quelqu'un qui ne sait pas gouverner, qui n'est pas compétent, qui ne peut pas gérer une crise. S'il est réélu, c'est la catastrophe. Donc, il faut choisir les démocrates.
Xavier Yvon, vous avez raison. Je vais vous dire, vous avez raison. Vous êtes sur le terrain pour nous dire ce que vous voyez, ce qui se passe. Vous nous dites la raison pour laquelle il sera battu s'il est battu, mais vous n'allez pas plus loin et vous faites magnifiquement le job. Malheureusement, le politologue, parfois, on le force à aller au-delà. Catherine Ney, c'est bien parce que entre les deux, Catherine Ney, elle est entre le reporter et le politologue. Donc maintenant, je vais lui faire écouter Donald Trump et elle va me dire si Donald Trump a raison.
We have to make our country totally successful.
Retrouver le succès total
to the plague coming in from China.
Que notre pays a connu avant la peste venue de Chine. On est en train de reconstruire.
We are on the road to success.
Millions d'emplois, nous sommes sur la route du succès. Et Trump pense que grâce à sa réussite économique, il va être réélu. Il a raison ?
J'en sais rien, en tous les cas, c'est qu'il l'espère. Mais moi, ce que je vois, c'est quand même que les femmes qui avaient voté en majorité pour lui sont en train de le lâcher. Enfin, certaines femmes, n'est-ce pas ?
Oui, les femmes avaient voté.
Les femmes blanches, oui.
Ouais, les femmes avaient voté pour Hillary Clinton. Il ne faut pas mettre tout sur le dos des femmes. Elles avaient voté massivement pour Hillary Clinton. Mais les femmes sans diplôme avaient voté pour Donald Trump. Et là, les femmes sans diplôme ont lâché Donald Trump. Alors, pourquoi ? on n'ose pas dire que Donald Trump va perdre. Ben parce qu'il y a 2016 et que tout le monde se dit oh, « Est-ce que ça peut se reproduire ?» Il y a trois raisons très rapidement qui font qu'on n'est pas en 2016.
Trois, ça fait beaucoup. Alors,
il y a moins d'un... Non, mais en une seconde par raison. Il y a moins d'indécis qu'en 2016.
Ouais.
Deux, il n'y a pas de polarisation négative chez Joe Biden. Et trois, le travail des sondeurs, état par état, c'est beaucoup plus précis.
Je voilà, précise, certains politologiques, il n'y a pas de polarisation négative. Pardon, chers auditeurs, de me répéter, c'est pour enfoncer le clou. Ce qui compte, c'est le vote contre. On a voté contre Hillary Clinton, qui était la représentante d'un système corrompu dont on ne voulait plus. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le vote contre. On va voter contre Trump pour deux raisons. La première, c'est que... cette fois-ci, Hillary, c'est lui. C'est lui dont on ne veut plus. C'est lui qui hystérise le pays. C'est lui qui divise. C'est lui qui insulte trop. Et c'est lui qui n'a pas su gérer le virus. Et deuxièmement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Sleepy Joe. On peut reprocher beaucoup de choses à Biden, mais on ne peut pas détester Biden. Biden, c'est impossible de détester Biden. Ce n'est pas un type détestable. Donc on ne peut pas mobiliser massivement contre Biden.
Et si mais c'est pour ça que Joe Biden est le meilleur candidat, c'est pour ça qu'il a été choisi par les démocrates. C'est parce que sinon, c'est celui qu'on ne pouvait pas détester. Et d'ailleurs, il y a un panneau électoral qu'on voit beaucoup dans les rues ici aux États-Unis, alors surtout à New York, qui résume parfaitement l'élection. Ce n'est pas un panneau Biden, c'est un panneau où il y a marqué « n'importe quel autre adulte en état de fonctionnement ». C'est ça l'élection aujourd'hui, c'est un référendum pour ou contre Trump. Donc on choisit n'importe qui d'autre sauf Trump. D'ailleurs, Biden l'a dit, hein, une chèvre pourrait gagner contre Trump.
Et c'est pour ça que...
C'est pas forcément un bon argument pour lui, mais c'est ce qu'il a dit.
Et à sa manière, Trump l'a dit quand il a dit « si je perds contre le pire candidat
oui,
de l'histoire
oui,
des
oui,
États-Unis ».
Et je pense que Trump a fait une erreur, une grosse erreur, qui lui ressemble pas d'ailleurs, dans le choix du surnom de Joe Biden.
Ouais. Parce
que Trump Sleepy. Est très fort pour donner les surnoms. Ouais. Sleepy. Ouais. Ils pensent que c'est une insulte, mais en fait, pas du tout. C'est ce que veulent les Américains.
Ouais,
ils veulent être endormis.
Pire,
il y a une Trump fatigue dans ce pays.
Cool. Même pire, ils l'appellent slow, parfois, le lent. Mmh. Or, les Américains ont besoin de lenteur.
Slow down.
Avec les tweets à n'en plus finir. Mais simplement, pour aller complètement dans votre sens, Donald Trump a compris le piège. D'ailleurs, il ne fait plus campagne contre Joe Biden, mais contre Kamala Harris. Son dernier meeting, là, il y a quelques heures, il dit... Qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas commenté ça. Il a dit... Il va mourir au bout de quelques semaines tellement il est vieux.
Elle va le
et
tuer.
C'est Kamala Harris, la socialiste.
Elle va le tuer, il a dit.
Il a dit il va mourir parce qu'il est vieux. Et c'est sa socialiste de vice-présidente qui va prendre... Donc, il a tout, c'est exactement ce que vous dites. Il veut renverser la polarisation négative et il dit voter contre les socialistes et les communistes. Mais attention quand même, il faut avoir un minimum de prudence sur cette élection parce qu'il y a Michigan, Caroline du Nord, Nevada et Pennsylvanie. Ce sont des États qui ne vont pas dépouiller le 3. Ce sont des États qui ne vont pas dépouiller le 3. Et si ça se prolonge, n'annoncez pas trop vite que Joe Biden va l'emporter.
Caroline du Nord.
Michigan, Caroline du Nord, Nevada, Pennsylvanie, caractéristiques d'États qui sont des États swing, qui sont des États où il y a beaucoup de grands électeurs. Et surtout, ce sont des États qui ne vont pas pouvoir dépouiller en une heure. À cause du vote par mail-in ballot, vote par la poste. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut se prolonger. Si Joe Biden ne plie pas l'élection en quelques heures, ça peut s'enliser. Donc, je vous demande juste un tout petit peu de prudence.
Est-ce que Trump peut annoncer sa victoire et dire « c'est moi qui suis sans attendre les résultats finaux ».
Tout à fait, ce qu'on appelle le mirage rouge. On peut très bien dépouiller ceux qui sont présentés. C'est pour ça que les électeurs démocrates font le vote par anticipation. 75 millions... Parce que quand on va commencer à commenter sur les chaînes, on commence l'élection, ça sera déjà fait. Hein. Deux tiers des Américains auront déjà voté. Ça, c'est complètement inédit.
Ouais. Alors, on sent la gourmandise des spécialistes qui se disent quelque part. En tant que citoyen, j'espère que ce sera clair. Mais en tant que spécialiste, si ça foirait, un feuilleton qu'on aurait. Allez, cette hypothèse du scénario catastrophe, on la précise dans deux minutes.
Europe 1, Mediapolis. Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Et François Durper en studio à Europe 1, historien qui fait une nouvelle édition chez First de Les États-Unis pour les nuls. Et Xavier Yvon, notre correspondant à New York, levé depuis 4h du matin pour être avec nous à 5h et animer cette émission aussi bien qu'il le fait. Avant de repréciser sur le scénario catastrophe possible pour mardi, mercredi, etc. Enfin plutôt mercredi, jeudi, etc. Peut-être que si on élargit le regard, on peut dire que la situation, d'une certaine manière, est déjà pas très loin d'une sorte de catastrophe. Je suis quand même très impressionné. Cette semaine, en retravaillant pour cette émission, l'écrivain extraordinairement populaire Douglas Kennedy dit que les États-Unis sont en guerre de sécession. Daniel Mendelsohn, qui était hier matin sur France Culture, dit que nous sommes aux États-Unis dans une, je cite, « guerre civile à bas bruit ». Eddie Harris, ce matin, toujours sur France Culture, dit que nous sommes en train de vivre la fin de la guerre de sécession. Dans les doubles pages du Monde daté d'aujourd'hui, c'est-à-dire sorties hier, formidable double page préparée par Valentine Faure, les doubles pages s'appellent « Les États désunis d'Amérique hantés par la guerre civile ». Le nombre de livres qui ont été publiés dans la dernière période, qui s'appellent « Divided the Fall »,« Why we are polarized »,« Pourquoi nous sommes polarisés »,« La division et la chute »,« Comment notre politique, comment la politique devient notre identité »,« Le désagrément civil »,« La division civile », etc. etc. Je ne vais pas vous le lire, ce serait trop long. Les États-Unis sont dans cette situation effrayante, François Durper ?
Comme depuis l'origine du pays.
Ah ben si c'est comme, c'est pas grave alors.
Ah ben, c'est oh ce ben que non. Je vous dis, c'est-à-dire que IDIS, c'est comme la guerre civile. Ça veut dire, un, qu'il y a eu une guerre civile et qu'on n'y est pas. Deuxième chose, vous pensez que si on faisait l'émission dans les années 60, avec des crimes politiques, avec Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy, Nixon qui dit la majorité silencieuse, c'est pas les jeunes qui sont dans la rue, etc. Les guerres culturelles de cette époque. Et puis la réponse à la question, elle est en ce moment. 75 millions d'Américains vont voter pour dire on est d'accord sur rien, mais on est d'accord sur un point, qu'on est des citoyens et qu'on va voter.
Alors, François Durper, moi je suis pas d'accord avec lui, une fois de plus, Xavier Yvon, donc vous allez nous départager éventuellement si ça vous dit. Parce que par exemple, un truc, juste une donnée qui m'a absolument sidéré. Un quart des Américains ont rompu soit avec un ami très proche, soit avec un membre de leur famille, pour raison politique. Et Guillaume Debré nous expliquait ici qu'il ne parlait plus à ses beaux-parents. Plus exactement, ses beaux-parents ne lui parlaient plus parce qu'il n'était pas trumpiste. Et alors, donc, ce n'est pas vrai ce qu'il nous dit, François Durper, avec cette façon de banaliser en disant « c'est comme toujours ». Il y a quand même quelque chose de spécifique dans la violence de l'hystérisation et de la polarisation, non, Xavier ?
Non, mais ce que dit François Durper, c'est que toute la polarisation remonte à l'origine des États-Unis et que la manifestation qu'on a aujourd'hui de cette différence entre entre Américains, on la voit à vif. Mais c'est vrai, hein, que on a des Américains, des deux pays qui veulent plus vivre ensemble. En fait, c'est ça l'état de guerre civile, disons larvée. C'est une séparation des esprits. On ne s'entend plus, on ne se comprend plus. On a l'impression de pas être le même pays. Vous savez, je tombe sur des gens en reportage qui nous disent ça, hein, qu'ils peuvent plus parler à une partie de leur famille, un fils qui rêve de crever les pneus de ses parents pour qu'ils n'aient pas voté mardi. Alors, il le dit en rigolant, mais il a peur de plaisanter tant que ça. Et une femme dans l'Iowa qui me dit pour parler à ma sœur, je regarde Fox News 10 minutes par jour. Comme ça, je comprends ce qu'elle me dit. Sinon, on ne vit pas du tout dans le même monde.
Mais Xavier, vous êtes d'accord avec moi que pendant 40 ans, c'est-à-dire, disons, les 25 dernières années du 20e siècle, et les 15 premières du 21e, c'était pas la situation. On se brouillait pas avec des gens pour des raisons politiques. On n'était pas deux moitiés de pays qui voulaient pas vivre ensemble. Que ce soit du temps de George Bush ou du temps d'Obama.
Avant. Il y a une polarisation des institutions très très claire.
Nouvelle.
Très, très claire. Nouvelle. Il y a une nouvelle polarisation. Regardez le Congrès. Vous regardez au Congrès. Au Congrès, il y avait des lois transpartisanes. Aujourd'hui, vous voyez la difficulté à faire une loi transpartisane, ne serait-ce que pour sauver le pays. Ça va jusqu'à la Cour suprême.
C'est ça la grande différence.
Mais attention, moi je vais dans l'autre sens. La Cour suprême, on dit maintenant, vous avez 6 conservateurs contre 3 progressistes. Et ça, la Cour suprême, normalement, ils étaient nommés à vie et ils devaient être au-dessus des partis, les juges. Mais si vous regardez les 79 décisions de l'année dernière, ça c'est important, hein, ça a l'air technique, c'est très important. Vous n'avez que 39 décisions où les conservateurs ont voté ensemble. Ça veut dire qu'il y a encore, une marge.
Ça peut changer.
Il y a encore,
ça peut changer avec Barrett.
Maintenant, après,
ça
vous
peut
êtes,
changer avec
mais vous êtes peut-être, mais vous êtes obsédé par la politique. C'est ça votre problème. C'est que vous pensez
à qui
que...
vous parlez là ?
Mais à vous tous.
Mais nous tous qui ? Les Américains ? Moi, Catherine ?
Je vous dis ce que la société américaine,
elle n'a jamais été aussi unie. Vous avez un cinquième des Américains qui se marient de couples mixtes. Vous avez des Amérindiens qui se marient avec des Blancs dans les années 50. Vous avez des Noirs qui se marient avec des Blancs. Mais c'est ce que je vous dis. Ne pensez pas que tout est politique. Aujourd'hui, vous avez des Américains qui se marient, qui vivent ensemble, qui ont des familles. Alors oui, vous avez raison sur le politique, mais la société américaine n'est pas encore en guerre.
Et ben voilà une conclusion réjouissante, peut-être un tout petit peu enjolivée, mais réjouissante, de François Durpaire. Et pour terminer, comme d'habitude, il nous faut une chanson. Et comme d'habitude, c'est Jean-Luc Arblade, le mélomane réalisateur occasionnel de cette émission, quasiment depuis qu'elle existe, qui l'a trouvée. En 1970, Jeanne Moreau, engagée, s'élevait contre la mort dans une chanson. Et Jean-Luc Arblade, au vu de l'actualité, nous propose cette chanson dont la comédienne Jeanne Moreau a écrit les paroles sur une musique d'Antoine Duhamel, un homonyme, je précise tout de suite qu'on ne m'accuse pas de placer
oui, précise, précise. Hein,
oui, oui. Une chanson que nous dédions à toutes les victimes du terrorisme. Le vrai scandale, c'est la mort.
Le vrai scandale, c'est la mort. Les membres, la tête, le corps. Destruction de l'innocence, le règne obscur de la souffrance. Pourquoi mépriser, torturer, pourquoi s'acharner à tuer tous ces hommes, ces corps si doux, ces lèvres chaudes, ces genoux, ces mains souples, ces pieds agiles, ces yeux grave, ses yeux rieurs, cette poitrine où bat le cœur, ses artères, cette peau fragile. Le vrai scandale, c'est la mort. Les membres, la tête, le corps. La destruction de l'innocence, le règne obscur de la souffrance. Pourquoi mépriser, torturer, pourquoi s'acharner à tuer ces femmes, ces hanches de cils, la larme qui se mêle aux cils, au milieu des cris de plaisir, les bras, les chevilles, les reins, les cheveux, le dos et les seins, l'ombre noire des secrets désirs. Le vrai scandale, c'est la mort. Les membres, la tête, le corps. La destruction de l'innocence, le règne obscur de la souffrance. Pourquoi mépriser, torturer, pourquoi s'acharner à tuer tous ces enfants, ces mains en fleurs, les regards clairs, si vite en pleurs, les ventres doux comme des oiseaux, les doigts maladroits, légers, les mouvements vifs comme l'eau, leur rire, leur jeu, leur baiser. Pourquoi?
Jeanne Moreau, le vrai scandale, c'est la mort. Pourquoi s'acharner à tuer, une chanson de 1970. Merci à Jean-Luc Arblade de nous l'avoir trouvé et d'avoir réalisé cette émission. Merci à Capucine Patouillet de l'avoir préparée. Merci beaucoup à François Durpaire d'être venu nous rejoindre. Merci, comme Olivier. Il l'avait fait en 2015-2016. Oui. Merci à Catherine Ney, bien entendu. À vous, Xavier Yvon, qu'on va retrouver naturellement sur Europe 1 mardi soir, dans la spéciale américaine, mercredi matin. Pendant la nuit, si vous avez une insomnie, il y a une solution épatante, c'est qu'ils vont rediffuser mon podcast Mr. President, qui est une histoire des élections. Donc là, ça vous permettra de vous rendormir.
Oui, ça vaut le coup. J'affirme, ça vaut le coup.
Ouais, pas comme somnifère. Et on se retrouve bien entendu nous aussi samedi prochain. On a déjà des retours qui disent que l'émission était formidable. Alors ceux qui l'ont raté, dites-leur de l'écouter en podcast. En plus, il n'y a pas de pub, c'est génial. Bon, allez, merci à tous et à samedi prochain en tout cas.